Vendredi le 13 février, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission 10 mouvements Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors aujourd'hui, chers auditrices, chers auditeurs, nous sommes à quelques jours du 16 février, une date qui nous fait penser à un incident tragique qui a porté avec lui la vie d'un homme dépressif qui cherchait des secours après avoir voulu mettre fin à sa vie. Un scénario qui se répète souvent ici au Québec. Alors maintenant, composer le 911 pour avoir de l'aide peut facilement tourner au vinaigre et c'est dommage que les citoyens sont devenus craintifs devant cette option jugée trop risquée. Devant maintenant le nombre de personnes dépressives, des personnes en crise, des personnes atteintes de troubles de santé mentale, une intervention policière a fait ses preuves. Éliminer la cible et le risque est une priorité grandement pratiquée par le SPVM. Alors le gouvernement, pour apaiser justement les esprits, a soi-disant finalement rendu à cette évidence et donc il ne la remet plus en question. Une équipe de spécialistes participera dans des interventions policières de ce genre. Une autre hypocrisie. Combien d'équipes nous devons avoir? Impossible de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que le problème est tout à fait ailleurs. Alors au Québec, nous avons des agents de paix dressés pour attaquer plus facilement que pour calmer des situations de crise et la notion de venir en aide à des victimes qui sont dans le besoin, dont la plupart du temps est tout à fait écarté. Alors qu'à force de se répéter les bavures policières et particulièrement celles du service de la police de la ville de Montréal, le SPVM, démontre que dans leur corps policier, il y a des agents qui ne sont pas faits, mais je dis bien pas du tout pour porter une arme, autrement dit, accordons le port d'armes à des individus expose la vie des citoyens à un danger réel. Encore, les critères de recrutement dans une profession devront se baser essentiellement sur cette qualité qui peut faire toute la différence. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas tout le monde qui souhaite réellement faire une carrière d'agent d'ordre ou d'un militaire, mais les ratés de la société ne trouvent pas mieux pour gagner leur vie. Et je veut dire certainement, justement, certains individus savent très bien qu'ils ne sont pas faits pour cette profession, mais devant le manque de choix et les capacités réduites, ils s'engagent dans cette voie yeux fermés. Regardez, par exemple, le chef des conservateurs à Ottawa, par exemple, il cible en ce moment des proies absentes d'esprit pour les attirer à s'engager dans l'armée. Il profite du taux de chômage, du décrochage scolaire, de la pauvreté pour chanter à ces pauvres malheureux la pomme de la patrie qui appelle au devoir. De quel devoir s'agit-il si ce n'est un stratagème de la ruse et en le promettant justement les portes du paradis pour se trouver dans le vide de l'incompréhension. Alors dans le corps policier, avoir le défaut du stress et la lâcheté n'est pas un motif de vous exclure de cette profession. Au contraire, c'est compatible à l'obéissance. Corps policier ou militaire, dans l'esprit de la ruse, il est de préférence, je dis bien de préférence, de ne pas engager des personnes qui remettent l'ordre, même si soit abusif et non convaincant en question. Alors je m'écarte un peu, je reviens à mon sujet de ce matin. Dans quelques jours, nous allons être le 16 février et pour celles et ceux qui ont oublié, c'est l'anniversaire de la mort de Jean-François Nadreau, un homme de 30 ans qui a été abattu en 2012 par un agent du service de la police de la ville de Montréal. Un incident tragique, comme plusieurs d'autres d'ailleurs, qui a coûté la vie de cet individu qui avait pourtant besoin, en toute évidence, de l'aide à ce moment bien précis de sa mort. Alors je vous rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, que le long demain de cette fusillade, des journaux nous ont livré un témoignage concernant cet incident, un témoignage basé sur un mensonge comme quoi une personne avait vu le policier au moment où il a fait feu sur la victime. Cette personne avait décrit que le policier n'avait pas d'autre choix que de tirer sur cette victime. Le problème, c'est que je suis allé personnellement deux jours après cette tragédie sur le lieu et j'ai constaté qu'il serait impossible, je dis bien impossible, à cette personne qui a témoigné de pouvoir observer la scène, vu la complexité étroite du lieu. Et je me suis demandé comment les médias qui ont rapporté un tel témoignage n'ont pas pu vérifier les dires de ce voisin et j'ai poussé un peu plus loin pour découvrir effectivement que tous les dires de ce témoin n'étaient qu'une invention. Et mes proches, je dis bien mes reproches étaient plutôt à ces journalistes qui n'ont procédé à aucune vérification pour appuyer ce témoignage. J'avais le sentiment qu'il y avait comme une sorte de complicité média-corps policier pour endormir les esprits sans que personne n'aperçoit un doute de questionnement. Dans un article justement publié le 16 février 2012 dans le journal de la presse intitulé « Un homme suicidaire abattu par les policiers des SPVM », on trouve ce témoin qui est soi-disant un voisin de palier. Cette information n'est pas vraie non plus. Bref, cet individu raconte être témoin de la scène et que Jean-François Nadreau aurait menacé un des policiers en essayant de le frapper avec un long couteau. Il ajoute encore un peu plus loin, les policiers n'auraient pu faire autrement que de tirer sur l'homme. Il se trouvait à moins d'un mètre des policiers. Je ne vois comment les policiers auraient pu lui tirer dans une jambe. Alors je répète, chère auditrice, chère auditeur, ce témoin n'a tout simplement rien vu et son témoignage est totalement faux et mensongeur. Les journalistes qui ont rapporté cette version sont encore pires que l'auteur de ce mensonge. Alors, dans d'autres postes de médias, chers auditrices, chers auditeurs, on rapporte que ce témoin avait vu de son balcon la scène alors qu'il n'y a aucun balcon dans cet immeuble encore. Bref, alors, dans cette fusillade, il y avait deux choses. Un homme qui avait besoin de l'aide, sa conjointe avait composé le 911, non pas pour le faire exécuter par les forces, soi-disant de la paix, mais plutôt de le secourir. Second point, la seule version qui a pris le dessus de tout, c'est la version des policiers. Sur ça, rien de nouveau, puisqu'il s'agit d'un processus bien connu, bien pratiqué depuis très longtemps, et la meilleure, c'est qu'il fonctionne à chaque fois. Alors ce matin, nous avons l'occasion d'entendre la conjointe de M. Jean-François Nadeau, c'est Josiane. Bonjour Josiane, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors elle était là justement avant et pendant et après la fusillade. Elle a accepté de répondre à nos questions et de nous faire connaître une version un peu, je dis bien un peu différente de celle des journalistes, des enquêteurs, des procureurs de la couronne, des commissaires à la déontologie policière, bref, une directive au service d'un système un peu aveugle qui avance malgré tout. Nous avons également, on va essayer de communiquer avec le frère de la victime, Sébastien. Il a des choses à nous dire à propos de cette couverture médiatique qui a mis toute la responsabilité sur le dos de la victime et faire des policiers de la SPVM des héros de la dernière minute. Nous allons tenter également de rejoindre la propriétaire de l'immeuble de l'intervention policière où a eu lieu cette journée du 16 février 2012, Madame Samira Harfouche. Elle a en plus une histoire à nous raconter parce que justement le service de la police de la ville de Montréal, la SPVM, l'a obligé, imaginez-vous, il l'a obligé d'appeler une compagnie et c'est et elle n'avait pas le choix finalement d'appeler cette compagnie-là pour venir laver, soi-disant, le sang de la victime qui est restée sur le pavé. Devant le refus, elle n'est nullement responsable, puisqu'elle n'est pas responsable de ce dégât. On lui a donné un ultimatum jusqu'à 19h, sinon les conséquences seront lourdes à son endroit. Elle n'avait aucun choix, imaginez-vous, elle a déboursé environ 1 200 $ de sa poche. Alors voilà, donc, chère auditrice, chère auditeur, pour avoir plus de précisions, je vous invite à rester à demeurer à l'écoute. Après notre thème musical, nous allons entendre les différents témoignages de ces personnes qui sont avec moi ce matin.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver.
égarée. À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà, bonjour chère auditrice, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission des mouvements Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et notre sujet aujourd'hui, vraiment, on va essayer d'écouter une autre version à propos de la mort de Monsieur Jean-François Nadreau. Et j'ai en face de moi sa conjointe, Josiane Miette-Roger. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes là justement pour. Je sais qu'il y a une vigile qui le 16.
Oui, le 16 février.
Février, à quelle heure?
18h.
Déjà à la mémoire de Jean-François Nadreau?
Oui.
Ok, bravo. Et maintenant, Josiane, vous, après 2 ans, je pense que vous avez pris un peu de recul et tout, vous réfléchissez mieux, vous êtes plus apte à répondre aux questions. Voulez-vous au moins nous décrire un petit peu c'est qui Jean-François Nadreau pour les gens qui ne le connaissaient pas?
OK. JF, c'était un être à l'âme sensible. Donc, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de capacité émotionnelle à ressentir ce que les autres ressentent. Oui. Il était toujours là pour sa famille, sa fille, son père. C'était un bon ami. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui appellent JF toujours aujourd'hui leur meilleur ami.
Oui, oui, oui.
Donc, c'était vraiment quelqu'un de doux et...
Il était attachant aussi.
Oui, il était très attachant.
Oui,
oui, oui. C'était une bonne personne, JF.
Est-ce qu'il était violent?
Pardon?
Est-ce qu'il était violent?
Violent. Ah, oh, violent, OK. Excusez-moi, j'ai pas compris. J'ai compris d'autres choses. Non, il était pas violent, JF.
Oui. OK, pas du tout.
Non.
Alors, il travaillait. Vous m'avez dit qu'il travaille pour... Il fait l'assemblage?
Oui, il était assembleur chez Incertec.
Pour les ordinateurs?
Oui, okay. Exactement.
Alors, il travaillait et en même temps, il s'occupait de sa fille. Hein. Il avait une fille aussi.
Oui.
OK. Et vous le connaissez depuis combien de temps avant?
Quand c'est arrivé, là, ça devait faire 6 ou 7 ans que je le connaissais, mais j'étais avec lui depuis un peu plus qu'un an.
Ah, plus qu'un an, OK.
Oui.
Alors, malheureusement, vous savez, vous essayez de nous parler un peu de cette nuit-là, tragique. Hein, donc, je sais que Jean-François, il était pas bien. Et je sais aussi qu'il avait 3 ans avant, sa mère est décédée. Il était très attaché à sa mère. Ça, c'est une tragédie aussi qui l'a bouleversé aussi. Et,
oui.
Il a jamais oublié sa mère. Il vous a parlé un petit peu de sa mère.
Oui, oui.
Il vous a parlé beaucoup de sa mère et tout. Et cette soirée-là, il avait une copine, une amie à lui, je pense, qui est venue vous voir.
Oui.
Et pour l'abandon au milieu de la nuit, il a décidé de sortir avec elle faire un tour dehors. Je pense qu'ils ont consommé, ils ont bu de l'alcool.
Oui, avec quelqu'un d'autre aussi. Il y avait une autre personne aussi qui était là.
Oui, et le soir, mais c'était calme, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème dans l'appartement. Une fois il est revenu, comment vous l'avez constaté? Qu'est-ce qui est arrivé?
En fait, le matin, il était en train de, ce qu'on peut dire, dégriser.
Oui.
Oui, puis il était en train de très mal dégriser.
Oui, mais il pleurait, il était
Il pleurait,
était en crise.
Je ne l'avais jamais vu pleurer.
Oui, c'était la première fois
que je le voyais. C'était la première fois que je le voyais pleurer.
Ouais. Il était dépressif.
Oui.
Oui, il pleurait. Oui. Il demandait quoi, finalement? Il a voulu s'enlever la vie, c'est ça?
Ben en fait, c'est qu'il s'est mis à se couper avec des lames de rasoir.
Mais il n'a pas donné aucune raison pourquoi, les motifs pourquoi il voulait le faire.
Ben, il pleurait.
Il pleurait. Il était triste.
Oui.
Hein?
Oui. Okay. Il ne filait pas du tout, là. Écoutez.
Il n'a rien voulu savoir. Alors, j'imagine.
C'est ça, il n'a rien voulu savoir.
Ouais. Alors, vous l'avez vu en train de découper, donc il y avait du sang qui coulait et tout. Vous avez paniqué.
J'ai paniqué.
OK. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez appelé la police ou vous avez appelé une ambulance?
J'ai appelé une ambulance.
OK. Pour avoir.
De l'aide.
Alors, vous avez souhaité secourir votre conjoint.
Effectivement.
Et avant, là, parce que là, on a entendu comme quoi il était en crise, il cassait des choses autour de lui. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est déjà arrivé, mais
je parlais de cette matinée-là.
Non, mais c'est ça, je dis, mais en fait, oui, peut-être donner un coup dans un mur.
Il était en crise, oui.
Oui, mais pas pire que quelqu'un qui est fâché qui donne un coup dans un mur, là, je veux dire.
Alors, vous l'avez vu en train de découper, les veines et tout, là, mais c'était assez...
Ben, j'avais peur qu'il mette fin à sa vie.
À sa vie, oui. Et il était allongé devant vous,
Ben, ensuite, il s'est allongé parce que c'est sûr et certain que quand on se coupe, on va tout de suite ressentir un moment de faiblesse.
Exact.
Donc, là, il s'est allongé au sol. Puis là, j'ai appelé le 911.
Le 911 pour avoir... Vous avez expliqué comme quoi il y a un monsieur qui est en train de se suicider. On veut avoir de l'aide, c'est ça?
Exactement.
OK. Et ça a pris... on parle de combien de temps, là, ça? Parce que c'était assez vite, hein, Josiane?
Moi, je dirais qu'environ 15 à 20 minutes après qu'il soit rentré à la maison, c'était déjà fini.
15-20 minutes après qu'il est rentré déjà?
Oui, 15-20 minutes, pas plus.
Alors lui, vous avez entendu, est-ce que les policiers quand sont arrivés sur le lieu, est-ce qu'ils ont sonné, est-ce qu'ils ont prévenu, comment ça?
Paraît-il qu'on m'a dit au téléphone que, c'est ça qui est écrit dans le rapport, paraît-il qu'on m'a dit au téléphone que les policiers, les secours policiers étaient en route.
Okay.
Mais écoutez, j'étais en panique, OK? Moi, j'aurais été censée là, d'aller prévenir JF qui est couché sur le sol.
Pour lui dire c'est la police qui vient.
Ben oui, pour lui dire ça.
Ce n'est pas l'ambulance.
Non, ça, c'est pas censé de constituer aucune surprise qu'il y ait 5 policiers qui rentrent avec des gros caps d'acier puis qui marchent fort. Mais lui, il les a entendus en tabarouette puis il a déjà. Ça l'aurait fait paniquer.
Quand il a entendu le bruit, c'était énorme, c'est ça? Est-ce que, parce que on va aller aussi écouter la propriétaire de l'immeuble.
Oui.
Et il semble-t-il que même ils ont brisé des choses en entrant, la police. On va voir ça après. Mais donc, ils sont rendus en haut. Vous étiez où, là, à ce moment-là?
Moi, j'étais
où? Oui.
Mais moi, j'étais dans l'appartement. J'étais juste là, dans le fond.
OK. Là, juste avant d'aller, il y a un témoin, vous avez vu, il y avait un témoin qui a parlé dans les journaux, il a témoigné, les journalistes, ils ont pris beaucoup en considération ce témoignage-là, et moi, je l'ai vérifié, c'était presque impossible d'avoir ce témoignage-là. Vous, est-ce que pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui a pu voir la scène?
C'est impossible qu'il ait vu la façon que c'était fait chez nous. De toute façon, j'étais là quand ils sont arrivés et quand que j'ai vu JF dans le corridor, et non, c'est impossible parce que c'est fait trop étroit chez nous.
Ça, je le confirme. Alors, c'est quand même, on reproche beaucoup à ces journalistes qui étaient sur le lieu. Ils n'ont même pas voulu vérifier. Alors, ils ont quand même donné un peu de l'eau dans le moulin, malheureusement, de la version policière. Maintenant, vous regardez, vous observez devant vous. Je sais qu'il avait une machette dans la main, c'est ça?
Exactement.
Décris-moi cette machette-là, là, parce que c'est important. Parce que vous m'avez dit que. Une fois, il a vu les policiers, la porte était ouverte.
Oui.
Jean-François Nadreau était allé vers la porte,
mais
il s'est mobilisé devant la porte.
Il s'est mobilisé devant la porte.
OK. Il n'a pas bougé.
Il criait de s'en aller.
Il a demandé...
De partir. Tout ce qu'il voulait avoir, c'était la paix.
Il voulait que les policiers s'en vont de la place, c'est ça?
Exactement.
Mais il avait quand même cette fameuse machette dans la main.
Oui.
Et Qu'est-ce que vous avez entendu entre là? Est-ce qu'il y avait une discussion entre le policier, les policiers plutôt, et la victime? Oui.
Oui, il y a eu une discussion entre les deux.
Une courte discussion, ça a pris combien?
Une très courte discussion, ça a pris peut-être environ secondes. 15 secondes.
OK. Oui. Pouvez-vous nous dire c'était quoi les mots qui s'étaient lancés?
OK. En fait, il a dit « lâche ta hache », puis JF il a répondu « mais non, franchement, c'est pas une hache que j'ai, c'est une machette ». En voulant dire qu'une machette, ça hache pas comme une hache.
OK. Ça veut dire que c'est comme rigolo. Lui, il a voulu... C'est dans
pas
le sens, une machette, parce que les gens qui écoutent, là, ils disent « machette, c'est dangereux ». Mais la machette, celle qu'on, si vous pouvez la décrire, est-ce qu'elle était coupante?
Non, c'était pas coupant, c'était pas aiguisé, puis je veux dire, ça pouvait... C'était même pas dangereux,
en fait. Si on la passe sur la peau de quelqu'un, est-ce que peut le couper?
Non, justement, je veux parler de ça parce que je disais que ça pouvait être coupant, puis il me l'avait montré, justement, que ça coupait pas. Puis moi, j'avais même essayé, je l'avais passé sur ma peau pour être sûr que c'était pas dangereux, vu qu'on avait ça chez nous, si ça coupait.
Et ça coupait pas?
Non, elle coupait pas, puis de toute façon, il l'aiguisait pas,
Et justement,
machette.
Jean-François Nadreau, sur la porte, il disait à ce policier-là, mais ça veut dire, on peut l'expliquer de cette manière-là, comme quoi, ce n'est pas une hache, je ne suis pas ici pour faire mal à personne, et de toute façon, c'est une machette qui ne coupe même pas.
Exactement.
Alors, mais qu'on lui a demandé, ça, c'est des mots qu'on dit, hein, mais c'est à peu près la version de Jean-François Nadreau.
Oui.
Par contre, quelqu'un vous dit, c'est pas une hache, il faut s'allumer là, c'est-à-dire, c'est pas une hache, ça veut dire, écoutez, c'est une autre chose, ça veut dire qu'elle est moins dangereuse que vous pensez, c'est pas avec ça, je vais faire quoi que ce soit.
Exactement.
Et le policier dit, lâche votre machette, et c'est justement à ce moment-là...
Il a dit, bouge pas.
Oui, mais est-ce que il a bougé?
Oui.
Et comment il a bougé? Dans quel sens?
Ben, il a bougé sûrement parce qu'il était nerveux, il savait juste plus quoi faire. J'ai même pas entendu un mot, il a même plus reparler. Fait que c'est sûr et certain que tout ce que Jean-François voulait, c'était la paix. Moi, je l'ai vu immobilisé dans le cadre de porte, j'étais dans l'appartement.
Oui,
puis je sais, oui, allez-y.
Oui, bouger, qu'on veut dire bouger. Est-ce que bouger, là, il a été allé vers le policier l'attaquer ou bouger dans quel sens?
Non, il était immobile dans le cadre de porte.
Et vous avez dit qu'il a bougé. Expliquez-nous, oui. C'est quoi, dans quel sens il a bougé?
Il a été trop nerveux.
OK.
Donc, il a voulu lâcher l'arme.
Voilà.
Mais c'est là que le policier a tiré parce qu'il était trop nerveux.
OK. Alors, comprend, il était nerveux. Le policier le voit avec du sang dans les mains et tout parce qu'il venait de quand même faire une tentative de suicide quand même. Elle avait juste la vue du sang, la vue qu'il y avait et à ce moment-là. Jean-François Nadreau, selon votre version, selon ce qu'on a compris, il a à ce moment-là qu'il a voulu jeter par terre la machette. C'est là où le policier a fait feu.
Exactement.
Mais est-ce que, selon vous, Madame Josiane Miette, est-ce que vous avez vu à un moment donné que Jean-François Nadreau est attaqué, a été allé lancer vers le policier?
Non.
En aucun moment?
Non.
Il n'a pas bougé du cadre de la porte?
Non.
OK.
Vraiment pas. Il n'a pas bougé du cadre de la porte, puis justement, l'endroit où il a été abattu.
Oui.
Il y avait presque encore une partie de son corps dans l'appartement, là. Presque.
Okay.
Il frôlait.
Parce qu'il est tombé.
Frôlait l'appartement.
OK.
Oui.
Ça veut dire, avec ça, vous pouvez prouver comme quoi il avait comme une partie de son corps qui était à l'intérieur de l'appartement, finalement.
Oui.
Oui.
Puis il n'a pas continué à parler parce qu'il était extrêmement nerveux.
Oui.
Fait que le dialogue entre les policiers et lui, c'est vraiment fait rapidement. Donc, c'est sûr que c'est un réflexe lâche de tout de suite tirer dans le thorax comme ça, puis de laisser aucune chance à la victime. Surtout que la victime a été... Ce que je veux dire aussi, c'est que la victime a été impressionnée par l'arrivée. Donc, on a une personne en crise.
Oui.
Non, mais en fait, une personne en crise va tout de suite encore plus paniquer.
Tout à fait.
C'est ça.
Oui, surtout dans le cas de Jean-François Nadreau.
Oui, mais c'est la dernière chose qu'on veut voir des uniformes de police quand on est dans cet état-là.
Mais je comprends aussi que, à la vue de la machette dans la main, à la vue de Jean-François Nadreau avec les mains ensanglantées, avec comme du sang et tout, le policier a paniqué. Et justement, cette panique-là qu'il avait essayé de le faire reculer, et sur le fait de cette panique-là, on imagine que le policier a fait feu directement. Il n'y a même pas de...
Oui, parce que JF, il a bougé.
Oui.
Mais c'est parce qu'il était nerveux qu'il a bougé. Il n'était pas en train d'attaquer.
Oui.
Il voulait juste qu'il s'en aille. D'ailleurs, il l'aura dit.
Oui.
Donc, c'est clair qu'il y a eu une grosse, grosse injustice. puis que ça devrait pas être les personnes qui devraient intervenir à ce moment-là.
Madame Josiane Miette, ce que je veux savoir maintenant, on a lu les versions des médias, on a lu partout un petit peu, et on essaie de tous mettre la responsabilité sur Jean-François Nadreau, justement. C'est comme quoi c'est lui qui a cherché son propre malheur. Comment pouvez-vous répondre à ça?
Je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Parce qu'une personne qui veut toujours vivre, qui veut avoir de l'aide, va pas faire ça premièrement devant des gens.
Oui.
Donc, c'était vraiment juste pour obtenir de l'aide.
Pour vous, c'est ça?
Non, mais c'était pour obtenir de l'aide de quelqu'un qui soit capable de dealer avec une situation de crise.
Oui. Pour vous, Madame Miette, vous êtes certaine que Jean-François Nadreau n'a pas cherché à mourir à ce moment-là, mais a cherché à avoir du soin, de l'aide.
C'est sûr qu'il voulait de l'aide.
Oui. Vous êtes une personne plus proche.
Oui.
Et comment vous vivez jusqu'à présent cette injustice?
C'est sûr qu'avec le temps, je suis un peu plus capable d'en parler avec du recul.
Oui.
Mais ça a été très difficile, puis ça l'est encore.
Oui. Et votre version, on n'a pas entendu toujours souvent votre version. On a entendu diverses d'autres versions, mais pourquoi vous étiez un petit peu absente du cercle des médias? Pourquoi on ne vous a pas entendu vos versions sur le fait?
Parce que j'étais trop en état de choc. Donc, je suis partie de l'appartement, puis je ne suis plus jamais retournée. Donc, j'ai fait d'autres personnes vider mon appartement.
Okay. Vous n'avez jamais voulu...
J'ai jamais voulu y retourner.
Remettre le pied dans cet appartement-là?
Non.
Hein?
Non.
C'est dommage. Et vous avez... vous demandez aujourd'hui à ces gens qui vous écoutent, vous sensibilisez la population de participer à cette vigile. Vous savez bien qu'il n'y avait pas... Il n'y a aucune accusation et ils n'ont pas porté d'accusation contre le policier qui a tiré. Encore pire, la déontologie policière, ils ont rejeté aussi votre plainte aussi. C'est quoi votre réaction?
Je ne suis pas surprise de ça. Étant donné leur façon d'agir, donc s'ils n'ont pas plus de respect que ça, je pense pas qu'ils vont avoir plus de respect si quelqu'un fait une plainte.
Oui.
Je trouve que c'est juste un gros manque de respect.
Maintenant, puisque tous les dossiers sont fermés maintenant, vous n'avez pas de recours, j'imagine, et vous êtes là aussi, et vous voulez continuer à dénoncer cette situation-là, dénoncer cette injustice-là, vous allez quand même, vous êtes en train de préparer, avec le COPP, vous êtes en train de préparer une vigile et tout, à la mémoire de votre conjoint, ça va vous donner quoi de le faire?
La vigile?
La vigile, cette mémoire, ce souvenir, vous êtes toujours attaché à ça. Est-ce que vous pensez-vous qu'un jour, il y aura une injustice ou vous voulez épargner à d'autres personnes cette injustice?
Oui.
Oui?
Oui, c'est important. C'est important de le partager puis qu'il y ait le plus de gens possible qui soient là parce que, en fait, c'est l'union qui fait la force puis c'est important de tous s'unir.
OK. Allô, bonjour.
Oui.
Oui. Alors, maintenant, nous avons sur la ligne, chère auditrice, chère auditeire, le frère de Jean-François Nadreau, Sébastien. Bonjour, Sébastien.
Bonjour.
Vous avez... Vous savez, vous avez peut-être écouté le témoignage de la copine de Jean-François Nadreau.
Oui.
Est-ce qu'on peut savoir votre réaction à vous, là?
Ma réaction face au témoignage de Josiane?
Oui.
Ben, moi et Josiane, on se voit encore dans la vie de tous les jours. On est restés en contact, on est des amis.
Oui.
Puis, je suis toujours tout à fait d'accord avec les propos qu'elle tient... par rapport à Jean-François.
OK. Sébastien, vous savez, le lendemain de la mort de votre frère, malheureusement, les journalistes, ils ont apporté plein de choses. Et je voulais juste confirmer avec vous, est-ce que vous avez dit comme quoi, finalement, il n'y a pas de nécessité, c'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement la faute des policiers?
J'ai relu l'article, oui, en question. J'ai dit que j'en voulais pas aux policiers qui ont tiré.
Oui.
Quand je dis que j'en voulais pas, c'est en voulant dire que je n'ai pas de rancune. Est-ce que je pardonne? Je pardonne pas. Est-ce que c'est la faute des policiers? À ce moment-là, peut-être que j'avais l'impression que c'était pas la faute des policiers. C'est sûr qu'avec du recul, là, on parle de ça, les événements viennent d'arriver. C'est pas encore non plus totalement clair le déroulement de la situation, comment ça s'est passé. J'étais pas là. Les gens qui étaient là sont encore très en peine, puis c'est pas comme très clair tout à fait dans ma tête, moi, le déroulement de la situation. C'est sûr que avec du recul, en ayant parlé avec des gens de qui ont vu beaucoup de cas comme ça, je me rends compte que ben c'est sûr que il y a une grande partie de la responsabilité qui retombe aux gens qui sont intervenus.
Oui, mais Sébastien, vous étiez finalement, vous n'étiez pas informé, vous n'étiez pas témoin, vous ne savez pas comment ça a été déroulé, la fusillade.
Exact.
Et, okay. Et sur ça, vous avez peut-être eu une autre version, et suite à cette version-là, vous avez dit, écoutez, là, moi, je n'ai rien à me reprocher aux policiers.
J'ai jamais dit que j'avais rien à reprocher aux policiers.
Oui.
Au contraire, j'ai toujours dit que il y avait un gros problème de ce côté-là au niveau des interventions, que les policiers n'étaient pas aptes à intervenir dans ce genre de situation-là. Mmh. J'aimerais aussi soulever quelques points. Il ne faut pas oublier le contexte social dans lequel l'intervention est arrivée. On parle de Hochelaga-Maisonneuve. Moi, mon frère, on est des enfants de Hochelaga-Maisonneuve. On a toujours grandi dans Hochelaga-Maisonneuve. On a vécu là toute notre vie. On a toujours été victimes de profilage social de la part des policiers. Mm-hmm. C'est-à-dire, mon frère encore beaucoup plus que moi, parce que mon frère était un petit peu plus marginal, si je peux utiliser le terme. C'est un peu péjoratif, j'aime pas le terme. Mais bon, quand on vient d'Hochelaga-Maisonneuve, puis qu'on porte des chandails de groupes de musique un peu rock ou un. Dès qu'on sort un peu de la ligne, comment je peux dire, dès qu'on est dans la marge, les policiers sont toujours après nous. Depuis là, je dirais l'âge de 9 ans, là, on a été victime de profilage social. C'est-à-dire les policiers qui interviennent auprès de nous sans raison, qui nous arrêtent pour nous poser des questions. Mon frère a déjà été même brutalisé quand il avait 16 ans par un policier dans un guichet automatique. Il était rentré pour retirer de l'argent. Quelques minutes auparavant, il y a des gens qui avaient appelé pour dire que des gens essayaient de vandaliser le guichet automatique. Et quand mon frère est arrivé, ces gens-là n'étaient pas là. Ils ont tiré de l'argent, les policiers sont rentrés, ils l'ont lancé dans la vitrine. Tout ça pour dire que ça explique un peu pourquoi la panique de mon frère quand les policiers sont arrivés. Parce que depuis toujours, il avait vécu de la répression policière simplement parce qu'il vivait dans un quartier où il y a de la pauvreté, puis que les policiers sont remplis de jugement puis font beaucoup de profilage. Et racial et social. Bon, pour le cas de mon frère, c'est un cas de profilage social.
Mais Sébastien, pensez-vous que vraiment votre frère était agressif? C'est-à-dire qu'il a pu agresser le policier en question?
Bonne question, j'étais pas là. C'est sûr que, bon, son attitude a peut-être été agressive. Mais je pense que n'importe qui. On met beaucoup de personnes dans une situation comme ça, dans une situation de crise, qui ont vécu beaucoup de répression de la part de la police, souvent injustifiée, là. On parle de répression souvent injustifiée, là. J'aurais peut-être réagi moi-même de la même façon, là. Ouais. Aujourd'hui encore, quand les policiers interviennent auprès de moi, on fait juste regarder les événements là, du printemps érable. Ça m'est arrivé de me retrouver confronté à des policiers. Je suis pas, quand c'est injustifié, je suis du genre à me révolter, puis c'est exactement le même genre de cas qu'on a là. L'intervention policière n'était pas justifiée. C'est ce que Jean-François sûrement a ressenti. Il sentait pas que c'était justifié, puis il voulait pas. Comment je pourrais dire, c'est révolté, tout simplement.
Oui, mais Sébastien, qu'est-ce que vous aurez souhaité, vous?
Qu'est-ce que je souhaiterais?
Qu'est-ce que vous aurez souhaité à ce moment-là? Est-ce que vous aurez souhaité que le policier...
Qu'est-ce que je souhaite? Ben, écoutez, qu'est-ce que je souhaite? Je dois vous avouer que les dernières années, les événements m'ont laissé avec un grand sentiment d'injustice. J'ai aucune confiance en les institutions de ma société pour régler ce problème-là. Écoutez, c'est sûr que j'aimerais porter cette cause-là. On aimerait, on est plusieurs, là, plusieurs, puis on aimerait tous qu'il y ait, que ça aille plus loin, qu'il y ait des accusations qui soient portées contre les policiers qui sont intervenus, que je sais pas moi, qu'est-ce que j'aimerais. Écoutez, rendu là aujourd'hui, j'aimerais juste que l'impunité, que les, ce soit pas impuni un geste comme ça, parce que là, on peut abattre. Parce que le message que ça envoie, c'est que les policiers peuvent sortir leur fusil, se cacher derrière leur fusil, tuer quelqu'un, puis rester impunis. Puis plus l'impunité va être présente, plus les policiers vont pouvoir sortir leur fusil, puis abattre des gens.
Oui. Est-ce que, finalement, Sébastien, est-ce que Jean-François Ladreau, il vous manque aujourd'hui?
Non, mais c'est sûr. C'est pas une journée où je me lève et je pense pas à mon frère.
Oui. Le 16 février.
On était très près, moi et mon frère. On a toujours été très proches. Ça a été mon premier ami. On a vécu ensemble plusieurs années. On a partagé plein de choses. Donc, c'est sûr qu'il me manque. Puis il me manque encore aujourd'hui. Puis il va toujours me manquer. On fait pas son deuil d'une chose comme ça. On fait juste apprendre à vivre avec. C'est comme une amputation. On vit avec le manque. Mais
c'est pas. Sébastien,
on se réhabilite jamais complètement d'une situation comme ça.
Sébastien, le 16 février, il y a une vigile. Est-ce que vous allez être présent?
Oui, bien sûr.
Oui. Et ça vous donne quoi d'être là?
Qu'est-ce que ça me donne?
Oui.
Vous voulez
insister.
C'est une façon de montrer qu'on n'oublie pas.
Voilà.
De rappeler aux gens que ces événements-là sont arrivés. C'est une occasion aussi de se réunir tous ensemble à la mémoire de Jean-François.
Très bien. Alors, je remercie beaucoup Sébastien pour votre témoignage.
Merci.
Au revoir. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, on va juste faire une petite pause musicale. On va revenir avec... peut-être on continue avec Josiane et après ça, on va passer à la propriétaire de l'immeuble, Madame Samira.
Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. J'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour devant le monde qui s'incline.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, sont 2.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours avec une autre version, justement, de la mort de M. Jean-François Ladreau. Et j'ai toujours ici, face de moi, Mme Josiane Muette-Roger, c'était sa conjointe. Rebonjour, Mme Josiane.
Rebonjour.
on reprend toujours, c'est finalement la clé de tout, que Jean-François Ladreau, au moment de la fusillade, il était dans le cadre de la porte.
Oui.
Et il n'a jamais dépassé finalement ce cadre de porte.
Non. Puis je veux préciser que Jean-François avait avancé et que par rapport au moment où il a été abattu, il y a eu un recul, ce qui veut dire qu'il a reculé. Donc, qu'il ait eu le temps d'essayer de lâcher son arme ou pas, ça importe peu parce que c'est exactement la même chose, ce qui prouve qu'il n'a pas voulu attaquer.
Mais il faut aussi préciser comme quoi il était nerveux, il était le visage rouge, tu sais, porté par la, il était un petit peu révolté, si vous voulez, il était en panique et avec des mains entachées de sang et tout, ça fait peur, hein. Et j'imagine que c'est ça qui a fait que le policier a paniqué puis il a pesé sur la gâchette.
Clairement, clairement.
C'est ça, hein.
Oui.
C'est la panique. Est-ce que le policier qui a tiré sur Jean-François Ladreau, c'est un jeune ou c'est quelqu'un de...
C'est un jeune.
C'est un jeune. Hein?
Oui.
Et c'est ça le problème qu'on a.
Oui.
Donc, c'est la panique. Écoutez, on va juste parler maintenant directement avec la propriétaire de l'immeuble. Bonjour, Madame Samira.
Oui, bonjour.
Merci, Madame Samira, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Donc, vous êtes la propriétaire de l'immeuble où Jean-François Ladreau a été abattu le 16 février 2012. Est-ce que vous connaissez ce gars-là, ce monsieur-là?
Bien sûr, je le connais.
Comment pouvez-vous le décrire aux auditeurs qui vous écoutent ce matin?
Moi, je trouve qu'il était vraiment un gars gentil.
Ah, ok. Avez-vous...
Il n'y a aucun problème avec lui.
Mais est-ce que vous avez aperçu à un moment donné qu'il était violent en aucun moment?
Non, sincèrement non.
Vous ne l'avez jamais vu?
Ouais. Non.
Cette soirée-là, madame, cette soirée-là, est-ce que vous avez écouté, est-ce que vous avez entendu, vous êtes témoin de chicanes ou...
Il y avait un chicane le matin, la journée même.
Okay.
Il y avait beaucoup de bruit dans l'appartement. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais il y avait, oui, la journée même.
OK, mais vous n'avez rien vu de la scène?
Non.
Oui, une seconde, oui, Josiane.
Oui, je dois préciser quelque chose d'important. En fait, c'est que la chicane qu'il y a eu, c'est la personne qui était chez nous, qui est allée dans le corridor pour parler au téléphone avec son copain.
Ah, OK.
Donc, c'était pas une chicane
À l'intérieur de la maison.
Exactement. Okay. C'était, ça s'est passé dans le corridor, puis elle parlait au téléphone, il était comme 7h, 7h30, puis elle parlait quand même assez fort.
Oui, Madame Samira, alors elle nous explique un petit peu la conjointe de Jean-François Ladreau, comme quoi c'est une amie qui était dans l'appartement, qui est sortie dans le corridor et qu'elle a parlé, chicanée au téléphone, finalement.
C'est ce que j'ai vu, cette petite amie, après la police, quand il a tiré
M. Ladreau. Oui, mais Jean-François Ladreau, vous n'avez rien vu de cette scène-là, de la fusillade?
Non, mais j'étais en arrière de la police, mais je n'ai pas vu.
Exact.
J'ai descendu vite, j'étais en arrière de la police.
Ouais.
Mais je n'ai pas vu, vraiment.
Vous, votre immeuble, Madame Samira, votre immeuble, les gens, parce qu'il y a quand même, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a vu toute la scène, est-ce que c'est possible, quelqu'un qui peut voir? Hein, parce que c'est étroit, hein, vous avez
Non, on ne peut pas voir, non.
Il n'y a personne qui peut voir, quoi que ce soit. Hein.
Non.
Voilà. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a dit des mensonges, finalement, et c'est malheureusement, les journalistes, ils ont rapporté un mensonge qui n'était pas finalement vrai. Est-ce que c'est exact que personne ne peut voir la scène directement?
Non.
Non, exact.
Non, ben, il n'y a pas de balcon dans l'appartement, comment ils peuvent voir?
C'est ça, ils ont parlé de balcon alors qu'il y a des fenêtres, et même la scène, le corridor est tellement étroit que c'est impossible que quelqu'un peut observer ou être témoin de quoi que ce soit.
Absolument, c'est vrai. Oui. C'est très, très petit, le couloir. Il ne peut pas voir.
À part celui qui est en face du policier, il ne peut pas voir.
Peut-être il l'a vu.
Mais ce témoin-là, qui parlait comme quoi il a vu, il ne peut pas être entre le policier et la victime.
Exactement.
Madame, on revient maintenant un petit peu à votre il y a aussi quelque chose qui est un petit peu révoltante aussi, que les policiers sur le lieu après le drame, après que la victime a été transportée à l'hôpital, ils vous ont demandé de nettoyer le lieu. Est-ce que c'est exact?
Oui.
OK. Et qu'est-ce que vous avez
obligé? Oui. On m'a obligé à nettoyer la place avant 7h le soir.
Alors, moi, je comprends pas. Qui a fait la gaffe? Est-ce que c'est vous qui a tiré sur Jean-François Nadreau ou c'est la police?
Non, c'est vraiment la police. Moi, j'ai dit à la police qu'elle m'a obligé à amener un compagnie. J'ai dit, mais je ne connais aucune compagnie. Il a trouvé le numéro, il m'a dit, appelle à Caliné. C'est le numéro de téléphone à Caliné.
Mais vous avez quand même refusé. Vous avez dit, pourquoi j'appelle une compagnie pour faire nettoyer?
J'ai dit, monsieur le policier, si vous avez fait ce crime, c'est à moi à payer. Il m'a dit, c'est un building à toi. Et puis, il ne faut pas que tu parles avec la police comme ça.
Alors, ils vous ont donné quand même un ultimatum. Hein. Ils vous ont dit à 19h, hein, à 7h le soir, si ça ne sera pas nettoyé.
Le nettoyage avant 7h le soir. Et moi, j'ai travaillé cette journée. Il fallait que je quitte mon travail. Il faut que j'appelle la compagnie que les autres qui m'ont donné le numéro à Caliné.
Et Caliné, cette compagnie-là, ils sont venus sur le lieu, ils ont nettoyé. Ça vous a coûté combien, ce nettoyage?
1 200 $.
Environ 1 200 $, vous avez déboursé de votre poche.
Oui.
Alors que vous, vous n'êtes pas impliqué, vous n'avez absolument rien à se reprocher.
Et moi aussi, après la locataire, elle a quitté l'appartement un mois après.
Oui.
Aussi, j'ai perdu le revenu pour cet logement pendant 2 ans. Il y avait un crime dans le logement. Il n'y a personne qui va louer le logement.
My God. Et plus de ça, ils vous obligent de nettoyer. Et c'est eux qui choisissent même la compagnie. Et ça a coûté.
Non, c'est pas moi qui ai choisi la compagnie.
C'est la police.
Oui.
Je sais tous, chers auditrices, chers auditeurs, nous avons, en 2012, nous avons tenté aussi d'écrire à la ville de Montréal pour leur demander justement de rembourser les frais de cette dame-là parce que c'était injuste. Et malheureusement, on a reçu des réponses comme quoi c'était pas possible. Alors, je pense que, madame Samira, dans votre cas, vous, à part le sang qui était sur le pavé, il y avait aussi, ils ont brisé quelque chose aussi. Ils ont brisé à l'entrée des choses aussi?
Oui, dans le corridor, il y avait un extincteur de feu qui était brisé. Et puis il y avait aussi un câble électrique aussi qui est arraché.
Oui.
Aussi, j'ai payé les frais pour les réparer, les deux.
Et c'est pas la ville de Montréal qu'ils ont réparé ça?
Non.
Et c'est pas eux qu'ils ont déboursé ça non plus?
Non, on m'a jamais demandé rien, ils n'ont jamais venu à la ville de Montréal, rien.
Oui. Quel sentiment que vous avez, madame Samira, envers ça? Vous n'avez pas qu'est-ce que vous gardez comme... Parce que moi, ici, devant moi, j'ai la lettre qu'on a envoyée au service des affaires juridiques et c'était exactement, nous ont référé de communiquer avec un bureau à la ville de Montréal, justement pour le remboursement. On a la lettre qui est datée du 19 avril 2012 et une autre lettre qui est datée aussi de 16 mai 2012 et tout, dans tous les deux, la ville de Montréal rejette de vous rembourser.
Oui, ils vont rester, mais ils ne vont jamais payer la ville.
OK, alors...
C'est malheureux. C'est très malheureux. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi qui ai tiré à M. Nadeau, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Non, c'était moi qui ai payé tout ce que vous avez fait.
Vous sentez-vous vraiment ça? C'est injuste pour vous, Madame Samira?
Absolument, c'est injuste.
Oui.
Injuste.
Oui. Vous êtes révoltée aujourd'hui à cause de ça?
J'ai pas compris la question, excusez-moi.
Est-ce que vous êtes révoltée? Est-ce que vous êtes insatisfaite de cette situation-là?
Ah, c'est sûr, je suis insatisfaite. Mais on peut rien faire contre la ville aussi.
Oui. Contre la ville et contre l'ordre, le policier, parce que le policier vous a dit...
Absolument. Contre le policier, on ne peut rien faire aussi. Et... On dirait qu'on est obligé à faire tout ce que les autres qui me demandent. Ou à nous, le peuple, tout ce qui demande la ville, ou soit la police. Nous, juste pour faire ce que les autres veulent.
Et Madame Samira, juste le fait de vouloir demander, c'est pas ma faute à moi, c'est pas moi qui ai commis des dégâts, c'est à vous de payer ça. Les policiers étaient quand même, ils ont répondu, ils étaient un petit peu stricts avec vous, ils étaient un petit peu.
Il m'a dit, il faut pas que tu parles avec la police.
Vous n'avez pas.
N'oublie pas que tu parles avec la police.
Voilà, c'est le peur. Voilà. Écoutez, Madame Samira Harfouch, c'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux citoyens qui vous écoutent ce matin?
Mais je vais dire juste que la police et la ville de Montréal, ils font des affaires qui n'étaient pas justes de nous.
Voilà. Un grand merci, Madame Samira, pour votre témoignage de ce matin.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.
Au revoir. Passez une belle journée. Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir. Alors revenons maintenant avec mon invité, Madame Josiane Muette, Roger. Je veux savoir maintenant, vous avez quand même, il y avait des funérailles, il y avait des frais à payer pour l'enterrement de Jean-François Nadreau. Est-ce que c'est la ville qui vous a aidé? Je sais qu'il vivait dans une situation un petit peu financièrement, c'était très délicate. Qui a payé tous les frais?
C'est la famille.
C'est la famille?
Oui.
Est-ce que la ville, ils ont participé dans cette...
Du tout.
En aucun moment?
Aucun.
Personne qui vous a aidé?
Personne. Mais en fait, c'est la famille qui s'est occupée de ça.
Oui.
C'est pas moi, c'est en fait...
C'est la famille de Jean-François Nadreau.
C'est la famille Nadreau qui s'en est occupée.
Oui. Même s'ils avaient les moyens, ils n'avaient pas tout à fait les moyens, mais ils sont allés chercher...
Comme ça, exactement.
Oui. Et vous aurez souhaité quoi? Que la ville devra normalement payer tous ces frais-là?
Mais c'est sûr. C'est à eux de payer.
Oui.
Clairement. C'est complètement injuste de faire payer les gens qui sont déjà victimes de ça.
Le problème, c'est pas un cas, c'est des centaines de cas comme ça.
Je sais.
La ville et surtout la police, la SPVM font des dégâts énormes et c'est toujours, ils vont retourner la facture aux propriétaires et la facture aux victimes.
Oui.
Comment se défendre de tout ça?
Comment se défendre de tout ça?
Est-ce que vous allez baisser les bras? Est-ce que vous avez demandé? Est-ce que quand nous, on a écrit, ça n'a pas fonctionné, mais on va certainement continuer de voir comment renverser cette tendance-là qui, malheureusement, qui est trop injuste.
Ben, écoutez, je crois pas qu'il y ait vraiment de recours par rapport à ça. Je crois pas que personne n'ait vraiment d'attente non plus parce qu'on sait dans quelle société on vit.
Oui. Jean-François Ladreau, il n'est plus là aujourd'hui. Vous étiez sa conjointe pendant très longtemps. Vous étiez amoureuse depuis plusieurs années avant de cohabiter ensemble. Est-ce que vous n'avez pas tourné la page? Il est toujours dans votre esprit, Jean-François Ladreau?
Il est toujours dans mon esprit. Il va toujours être dans mon esprit.
Oui, vous vivez avec...
Oui.
Oui. Et les souvenirs là, de cette fin tragique, malheureusement, hein, ça vous revient de temps en temps?
Oui, ça me revient de temps en temps, mais quand je pense à JF, normalement, c'est pas à ça que je pense. Je commence à être capable de penser... j'ai toujours, en pensant à JF, c'est pas à la tragédie que je pense le plus possible. Je pense à lui de son vivant. Et non à la tragédie le plus possible pour, soi-disant, me protéger.
Oui. Mais maintenant, je sais que vous avez fait même demander une révision à la déontologie policière. A été rejetée, votre demande aussi. Vous étiez basé sur quoi dans la déontologie policière pour faire demander une révision de la décision de la première instance?
La décision de la première instance, ben, écoutez, c'est sûr que ça m'a pas surpris. parce que, justement, si on appelle des soins du 911 et que la personne qui a besoin d'aide se fait abattre, c'est clair qu'on va avoir encore moins de recours, dans le sens que tout va ensemble.
Hein. Oui. Et à propos de l'invité, à propos de ce que j'appelle l'impunité, justement, policière.
Oui.
Vous gardez quoi comme... Est-ce que vous gardez un goût amer à propos de ça?
Oui, je garde un goût très amer à propos de ça. Puis aussi, j'aime pas beaucoup quand on parle de... je comprends qu'il y a beaucoup d'injustices, tout ça, mais j'aime pas beaucoup, en fait, parler de trucs matériels qui ont été perdus parce que Jean-François, lui, il a perdu la vie. Donc, c'est sûr que, en fait... Oui, je comprends qu'il y a eu plein d'injustices, tout ça. Je sais que c'est pas correct que la ville fasse débourser des frais. Je le sais, sauf que...
Mais la vie, elle vaut. Oui. La vie de Jean-François Ladreau n'a pas de prix non plus.
Non, c'est ça, exactement. C'est parce que sa vie, elle avait vraiment pas de prix.
Dans quelques jours, on part du 16 février, il y aura la vigile. Les gens qui vous écoutent, pour les inviter à assister à cette vigile-là, je vous laisse le micro, Madame Miette... À vous de inviter ces gens-là qui vous écoutent ce matin d'être là le 16. Voulez-vous donner l'adresse, l'endroit et peut-être donner un mot chaleureux pour que les gens peuvent se déplacer sur le lieu?
Oui, certainement. En fait, ça va se passer au coin de la rue Valois et Ontario, ouais. À la place Simon-Valois.
Vous répétez l'adresse, s'il vous plaît?
Il n'y a pas vraiment d'adresse, en fait. Place Simon-Valois.
Okay.
C'est comme un petit parc, entre parenthèses.
Parc. Oui,
OK. Donc, c'est ça. C'est au coin de Valois et Ontario.
À quelle heure?
C'est à 18 heures.
OK.
Oui. Puis, c'est sûr que plus... plus il y a de gens qui seront là pour nous soutenir, ceux qui restent, en fait... mais plus on va être content. Et c'est important pour nous de passer le message et de ne pas oublier qui était JF et de le commémorer. Puis plus qu'il y aura de gens, plus qu'on sera satisfait.
Voilà donc, chères auditrices, chers auditeurs, sur cette fin. Alors, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et on vous invite à assister à cette vigile qui se déroulera le 16 février 2012 à 16h. J'aimerais bien remercier mon invité, Madame Josiane Muette-Roger, d'avoir accepté et de se déplacer justement ici pour partager avec vous ces souvenirs et ce témoignage. Merci beaucoup aussi au frère de Jean-François Nadreau, Sébastien, qui a aussi donné un éclairage. Un grand merci aussi à Madame la propriétaire justement de la bâtisse où il y a eu lieu l'intervention policière, Madame Samira Harfouch. Et à mon nom, alors je vous dis, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Sur ça, je vous dis passez une excellente fin de semaine. Au revoir.
Sur les problèmes de société, coup d'héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins, les assassins.
Envie de vous faire connaître? Besoin d'un coup de pouce publicitaire? Radio Centre-Ville vous offre la possibilité de rejoindre notre public multiculturel et multilingue. Français, anglais, espagnol, portugais, créole, grec, cantonais et mandarin. Un éventail commercial dont vous ne pouvez pas vous passer. N'attendez plus et profitez de vos 40 ans d'expertise. Pour information, contactez dès maintenant Christina 514-495-8836 ou visitez www.radiocentreville.com.
Vous préparez votre dossier pour la résidence permanente ou vous faites votre demande de citoyenneté. Vous devez présenter le TEF professionnel, TEFAC ou TEF Canada. Une seule adresse à Montréal, ALC Montréal, 514-844-4849. Appelez dès maintenant au 514-844-4849 ou visitez-nous au alcmontréal.com et réservez votre place. On vous attend.
Thank you. entretien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts.
Radio Centreville,
102,3 FM, un monde différent.
Radio Centreville, 102,3 FM.